René Leys.
novembre 1911. Ce matin ressemble à tous les matins de l'hiver. Rien ne s'est passé durant la nuit. Rien ne s'est fait. Peking, pour la première fois, m'a déçu. Peking, et pas même les portes extérieures, Peking n'a pas brûlé cette nuit. Faut-il croire à tant de bassesse? L'abdication, le passage, la transmission des pouvoirs du ciel, se font-ils donc avec tant de complaisance au pouvoir de la terre? Le petit empereur véridique, la main conduite par les doigts mous et gras du régent, a laissé tomber de son pinceau le geste qui confère au dictateur, à Yuan Chekai, tout pouvoir pour le bonheur du peuple et le soin de la santé de l'Empire. Après quoi, chacun sans doute est rentré dans ses appartements. Chacun dort paisiblement. Il est peut-être indiscret ou maladroit de se réveiller à cette heure, historique pourtant, et d'être soudain tout aussi lucide que le grand ciel sec de l'hiver. Je me réveille de très loin. Pour la première fois, ce jour n'est pas ce que j'attendais. Peking n'est plus l'habitat de mes rêves, et ma mauvaise humeur envahissante et assiégeant le palais même, j'en arrive à douter de mon désir d'y avoir jamais désiré entrer. Comme après une nuit trop ivre de mauvais champagne belge, j'ai la bouche, et surtout les idées, mauvaises. Je voudrais avoir très mal à la tête, un prétexte à ce nauséeux état de mes idées. J'écris ceci d'une plume grinchue et, sans risquer une enquête politique, aujourd'hui, je me recouche une dernière fois dans l'aube de Peking. Ce soir ou demain, je bouclerai mes malles. Et, d'un geste inconscient, relisant le seul premier feuillet du manuscrit, je souligne ces mots. Je ne saurai rien de plus, je me retire. Et j'ajoute, d'une toute haute écriture, et ne veux savoir rien de plus. 20 novembre 1911. Pour la régularité de mes comptes, je suis allé tout au nord de la ville tartare payer à Maître Wang sa dernière mensualité. Il l'a reçue avec une reconnaissance étonnée. Depuis qu'il m'avait demandé asile chez moi, il se considérait, ai-je compris, comme mon locataire moral. Et c'est lui qui aurait dû. J'arrête cette effusion de politesse en lui avouant que je vais quitter avant peu ma maison du coin sud-est et sans doute la capitale et rentrer dans mon royaume. Mais je ne veux pas le laisser sans refuge européen s'il a de nouveau besoin d'asile. Une carte de moi, que j'ajoute à sa collection, lui ouvrira les portes de France à l'adresse bien connue de sa légation. À ma grande surprise, il accepte la carte et le refuge. Tout est calme maintenant, et les affaires vont reprendre. Le décret d'abdication a paru dans les journaux d'hier au soir. Je n'ai donc plus qu'à prendre congé de mon professeur, avec qui je suis en règle, et, bénéficiant autant que possible de ses leçons, à tenter de traduire, sans ironie déplacée, le décret impérial, dont le texte est dans toutes les mains, pour un cuivre, le prix d'une tranche de pastèque déjà sucée au marché. Et vraiment, je n'ai plus dans ce quartier que je quitte, car ma résolution est vraiment bien prise et mon déménageur déjà requis, je n'ai plus qu'un seul devoir à accomplir, prendre congé du voisin Jarignou. À défaut de prince du sang, ce vendeur de son sang européen me livrera peut-être la raison marchande de cet épilogue sans doute payé. l'abdication, le désistement sans bruit. Au moment où je tinte à sa porte, il en sort et s'exclame « Tiens, justement j'allais chez vous. Vous ne savez pas ce qui vient d'arriver ?»«
Non, il n'est rien arrivé du tout. »
« Oh, ce pauvre monsieur Leys !»«
Je sais d'avance. Monsieur Leys, deux fois marié, doit être déjà deux fois cocu.
Mais ce n'est pas du père dont je vous parle, ce pauvre monsieur René.
Eh bien, ce petit qui était tout le temps chez vous, on l'a trouvé mort ce matin. »
Oh, la belle histoire! Une de plus à toutes celles qu'il m'a déjà si bien contées.
Jarignou attend évidemment quelques réponses. Le moment est doux pour plaisanter enfin.
Dites-moi, monsieur Jarignou, c'est bien René Leys lui-même qui vous a chargé de m'informer de sa mort.
Hein ? Répond l'autre, qui n'a plus sa figure d'imbécile à tout faire, et m'exaspère en prenant le masque du brave homme.
Oui, c'est René Leys qui vous a raconté ça.
Où est-il ?
Voilà deux nuits qu'il ne découche plus de chez moi.
Jarignou, hébété de ma réponse, ne peut que bégayer.
Mais puisque je viens de le trouver sur son lit, chez lui, allez y voir, vous qui le connaissez.
Et le brave homme, tout ému, ajoute qu'il a reçu ce matin, vers 8 heures, la visite du boy de René Leys, qui trouvait que la maladie de son maître durait plus longtemps que d'habitude aujourd'hui.
La maladie ! René Leys est en syncope. L'absence d'émotion attendue, peut-être.
Ou peut-être ai-je été un peu dur l'autre jour avec mon questionnaire en 3 points.
Il s'est endormi pour un peu trop longtemps.
Il abuse. Je lui dois bien d'aller le réveiller.
Même soir, j'y suis allé. J'en reviens. René Leys ne s'est pas réveillé. Pour la première fois, Jarignou avait raison. René Leys est mort. Cette matinée, dans cet horrible Peking, déjà presque en République, dans ce ciel révolutionnaire, ne peut s'oublier. Son boy, plus blême que lui, craindrait-il qu'on l'accusât de quelque chose, pleurait comme un chien sentimental. La maison était ouverte et sans aucune garde. Le boy devait savoir à quoi s'en tenir, car il n'a pas imploré mon savoir européen pour guérir son maître, et il semble lui avoir épargné les habituels remèdes chinois de la dernière heure, pointes enfoncées un peu partout. Le visage de René Leys était exactement celui de ces grandes syncopes, dont celle-ci est la quatrième. Un beau visage fixé, reposé, qui a fini de se tendre vers le but en action, quel que soit le but. Les yeux étaient grands ouverts, avec, plus que jamais, et pour toujours, cet étrange envahissement de tout l'iris par le sombre de la prunelle. Je n'ai pas fermé ses yeux, qui jouaient leur rôle charmeur jusqu'au bout dans le charme indécomposable de ce visage. Je l'ai déshabillé pour me rendre compte, avant que les médecins n'interviennent, de la cause de sa mort. René Leys est véritablement mort, empoisonné, puisque je n'ai trouvé aucune trace de blessure. Le dessin de son corps m'a surpris, tant de force en tant de souplesse, une parfaite élégance symétrique. À suivre le contour de ses reins et de ses cuisses, j'ai compris comment il se liait à son cheval fou, et le geste même détendu de ses bras m'a fait voir comment il aurait dompté les femmes s'il avait vécu. Juste assez brun pour n'être pas traité de blanc par les jaunes, et un dépoli de la peau déjà froide, très semblable au toucher délicat de l'épiderme chinois. Donc, sans blessure, et déjà froid, René Leys est mort, peu de temps après m'avoir quitté, avant-hier. Mais
de quel poison? Si je posais ce doute, les médecins exigeraient l'autopsie, l'analyse intestinale, la profanation de ce beau corps que je revais et recouvre. Je ne poserai point ce doute. Je veux cependant, non pas en médecin, mais en homme, je veux savoir à quoi la mort est due. Jusqu'ici, de tout ce qui précède, un seul fait est certain. René Leys est mort et point de mort naturelle, qui d'ailleurs, pour les bons taoïstes, n'existe pas. Quand on a vécu près de lui à grande allure, à grande action, on sent que ses organes étaient bons, et l'on pourrait conclure empoisonné par ses confrères, ses compétiteurs, ses rivaux. Mais je sais bien que les Chinois évitent le poison rapide, aussi dangereux pour le cuisinier que pour sa victime, et s'adressent toujours au poison lent qu'ils manient avec sécurité. Alors, est-il mort empoisonné par lui? Mais pourquoi? C'est vrai, ses affaires dynastiques allaient depuis quelque temps assez mal. L'abdication, mais elle a dû être payée. Et il avait tout perdu dans la faillite de sa banque. Mais à 17 ans. Car depuis que je le connais, voici tout juste 10 mois, il n'a même pas changé le chiffre de ses années. Tant de choses en si peu de jours. Et il avait eu ce geste et ce mot. Tout est à recommencer. Il était de force à le faire, même si la fortune mandchoue tombait à plat, et il était de jeunesse à retailler entièrement la sienne dans les milieux européens, cette prodigieuse facilité d'assimilation, son don des langues, parlant anglais, pékinois, shanghaïen, cantonais et pidgin, à volonté. En quelques autres mois, sur ma recommandation, il pouvait entrer dans une banque, même honorable, et pour un fils d'épicier, n'oublions pas, se créer sa situation. Pourquoi ne s'est-il pas ouvert à moi? Je l'aurais certainement tiré de là. Alors, il s'est empoisonné. Par dépit d'amour? Oh, il n'a jamais été très amoureux. Que faisait-il, loin d'elle, durant la nuit qui devait être la grande nuit tragique? C'est pourtant au lendemain même de cette nuit qu'il est mort, au lendemain du moment où j'ai, pour la première fois, douté de lui, où je l'ai mis en cause directement, où j'ai failli ne pas le croire, où il a vu ses histoires, sa merveilleuse histoire, contestée, sa parole mise en doute. Dans ce cas, il aurait fait usage de feuilles d'or, mort impériale, et tout à fait de la couleur de ses récits. La feuille d'or, image et symbole, qui seule ne pourrait tuer, malgré toutes les explications qu'on en donne, mais enrobe l'opium. Il méprisait l'opium. De ce doute, s'il avait laissé quelque testament, quelque histoire écrite, mais il n'y a pas un meuble que ce petit lit mince dans l'ancien logis de son père, et il se méfiait de ce logis ouvert à tous les marchands. Rien non plus chez moi, sauf 2 lettres, déjà transcrites, et cet énigmatique reçu de la première nuit d'amour au palais, qu'il croyait perdu, sans que je l'eusse détrompé. J'ai déjà tenté de le déchiffrer. Mais suis-je mauvais élève ou le devoir trop dur? Ces caractères représentent des objets redoutables, des couteaux, une lance à crocs, des yeux en long ou dressés en hauteur, des fleurs, des dents de rat, des femmes se cachant le ventre, des puits, des creux, des tombes, des trous lutés d'un couvercle, un fourneau magique, une bouche vide, un bateau. De tout cela, qu'est-ce qui exprime ce thème ? Première nuit d'amour au palais. Faut-il faire traduire ? Si c'est faux, et peut-être un conte de maison, quel ridicule sur moi ! Si vraiment il s'agit de cela, quelle trahison pour lui qui ne peut plus s'en défendre et ne peut plus s'en expliquer. Ou simplement, ce papier ne serait-il pas écrit de ses mains ? Car la calligraphie n'était qu'un jeu dans ses étonnantes aptitudes. Et je reviens, et je me retrouve face à face avec mon seul témoin valable, ce manuscrit, dont j'aurais voulu faire un livre, voici 10 mois, et que je regarde avec une défiance lourde de tout ce qu'il contient. Je me souviens qu'il n'en ignorait pas l'existence. Lui-même m'avait prié de le continuer avec soin. C'est avec son gré, dédié à sa mémoire, que je le rouvre et, pour la première fois, le relis d'un bout à l'autre. 22 novembre 1911. Et, pour la dernière fois, le referme, non sans y écrire ce qui suit. J'ai relu ce manuscrit, mot pour mot, dans un corps à corps et une émotion grandissante, non plus avec mon doute ni ma défiance, mais établissant l'irrécusable certitude de ma propre culpabilité. René Leys ne s'est pas tué. On ne l'a pas empoisonné. Et pourtant, il est bel et bien mort par le poison. Ce paradoxe est le plus véridique des aveux. Le poison, c'est moi qui le lui ai proposé. Certes, le plus méchamment du monde, c'est de moi qu'il l'a reçu, accepté et bu. Et cela, depuis notre première entrevue. René Leys, fils économe d'épicier belge, ne songeait guère aux Chinois, encore moins au palais, quand, pour la première fois, je l'ai pris pour confident du mystère du palais. Il est vrai que sa réponse dépassait déjà mon attente. C'est moi le premier qui, sur la foi de Maître Wang, l'entretint de l'existence d'une police secrète. 8 jours après, il en faisait partie et m'enrôlait au bout de 2 mois. Les attentats à la vie du régent ne m'appartiennent pas. On les lisait dans tous les journaux, mais je m'accuse de cette question répétée. Dites-moi, Leys, une manchoue peut-elle être aimée d'un Européen ? Et 15 jours après, il était aimé d'une manchoue. Enfin, je m'accuse de lui avoir tenu, voici 4 jours exactement, le propos trop suggestif. Pensez donc au poison. Il a répondu, merci de m'y avoir fait penser. M'a pris au mot et ne s'est pas démenti. Il ne s'est jamais démenti. L'interrogatoire incisif dans la claire nuit froide ne pouvait conduire à rien. Je demandais « oui ou non, as-tu ?» Mais j'aurais été 100 fois déçu s'il avait renié ses actes, même inventé. Mais je tremblais plus que lui à sentir vaciller le bel échafaudage. Mais j'entendais venir sa réponse. Il m'aurait plus durement trompé en me détrompant sans pitié. Il est resté fidèle à ses paroles, et peut-être toujours fidèle à mes paroles. Tout ce que j'ai dit, il l'a fait à la chinoise, puisqu'il vient à la chinoise de m'en donner par sa mort la meilleure preuve qu'il préférait perdre la vie et sauver la face, et ne pas se trahir, ni me trahir, et ne pas démériter. Tout ceci est donc vrai à la chinoise. Tout ce que j'ai dit, il l'a fait, même un enfant. cette preuve réclamée par moi, posée par moi, la preuve cruciale, l'enfant. De lui-même, il me l'a dit. C'est un gros garçon. Si cet enfant est vivant et viable, pourquoi me surprendre à compter tout d'un coup sur mes doigts jusqu'au nombre 9 ? Il me semble que le terme est un peu court entre ma suggestion et l'enfant. Ce garçon est décidément surprenant. Mais par à deux, par à moi-même, saurais-je jamais ce qui lui vient de moi. Restent des moments inexplicables, des aperçus, des éclats, des éclaircies, des lueurs, des mots impossibles à inventer, des gestes impossibles à imiter. Toutes ces confidences habitaient vraiment un palais capital, bâti sur la plus belle assise, et la mise en décor, et cette pleine vie protocolaire et secrète et pékinoise que nulle vérité officiellement connue ne pourra jamais suspecter. À bien réfléchir, sa part est donc beaucoup plus riche que la mienne. La jeunesse d'avoir osé cela, la foi peut-être de l'avoir accompli. Et je suis là, vivant, promenant autour de sa mort mon doute comme une lanterne fumeuse. Alors que, fidèle à lui-même, et je m'en aperçois tout d'un coup, je devrais d'abord me souvenir de sa parole. L'autre, l'empereur, est mort sans un ami auprès de lui. J'étais son ami, m'a dit avec un profond accent René Leys. J'étais son ami, devrais-je dire, avec le même accent, le même regret fidèle, sans plus chercher de quoi se composait exactement notre amitié, dans la crainte de le tuer, ou de la tuer une seconde fois, ou, ce serait plus coupable encore, d'être mis brusquement en demeure, d'avoir à répondre moi-même à mon doute, et de prononcer enfin « oui ou non ». Écrit à Peking du 1er novembre 1913 au 31 janvier 1914.